Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Nous sommes dans nos vies à la recherche de liberté. Une liberté de pensée, une liberté de choix ou une liberté d'action. Nous sommes tous confrontés à des limitations par le travail, la famille, l'argent, la peur et bien d'autres limites que nous nous mettons inconsciemment sur nos routes. Mais qu'est-ce que la liberté ? Est-ce faire tout ce que l'on veut ? Est-ce ne dépendre de rien ni de personne ? Ou est-ce que quelque chose de plus profond, de plus intérieur, de plus spirituel ? Dans la vision spirite, la liberté ne se résume pas à une absence de contraintes. Elle est un chemin, un apprentissage, une conquête de l'âme. Comme nous le rappelle Allan Kardec dans le Livre des Esprits, nous sommes des esprits incarnés, venu progresser à travers l'expérience terrestre. Question 132. Car nous sommes des esprits incarnés, venus expérimenter la vie dans un corps, et ce corps, avec ses limites, n'est pas une prison, mais un outil. La première liberté, celle que rien ni personne ne peut totalement enlever, c'est la liberté de penser. Sommes-nous réellement libres dans nos pensées ? Le Livre des Esprits nous dit à la question 459 « Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions ?» Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent ce sont eux qui vous dirigent. Les esprits influencent nos pensées, mais ne les imposent jamais. Même dans les situations les plus contraignantes, l'esprit conserve cette capacité à réfléchir, à choisir, à orienter ses pensées. Le spiritisme nous enseigne quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas toujours aussi libres que nous le croyons. Pourquoi ? Parce que nos pensées sont influencées par notre éducation, notre passé, nos blessures, mais aussi par les influences spirituelles qui nous entourent. Selon l'enseignement d'Allan Kardec, les esprits peuvent inspirer nos pensées, mais jamais nous contraindre. Cela signifie que nous restons responsables. La véritable liberté de penser ne consiste donc pas seulement à penser ce que l'on veut, mais à apprendre à discerner ce qui vient de nous et ce qui ne nous appartient pas. C'est un travail de lucidité, de vigilance et d'élévation de l'esprit. Comme le disait Léon Denis, la liberté de l'âme consiste dans le choix éclairé du bien. Nous croyons souvent que la liberté, c'est pouvoir agir sans limite. Dans la vision spirite, chaque action entraîne une conséquence. C'est la loi de cause à effet. Nous sommes libres de choisir, mais pas libres d'échapper aux conséquences de nos choix. La liberté n'est pas l'absence de règles, c'est la compréhension des lois divines. Plus nous comprenons ces lois, plus nos choix deviennent justes et plus notre liberté s'élargit. Un esprit éclairé agit en conscience. Il ne subit plus sa vie, il a construit. Nous pourrions penser que notre corps physique limite notre liberté. Fatigue, maladie, contraintes matérielles, émotions, tout semble parfois nous enfermer. Le spiritisme nous invite à changer de regard. Kardec nous enseigne que l'incarnation est nécessaire au progrès de l'esprit. À la question 132 du Livre des Esprits. Et si ces limites étaient nécessaires ? Le corps nous limite et grâce à lui, il nous permet de vivre des expériences précises, de corriger des erreurs passées et de développer des qualités. Sans le corps, il n'y aurait pas d'effort. Sans effort, pas de mérite. Sans mérite, pas d'évolution. Ainsi, ce qui semble limiter notre liberté participe en réalité à la construire. Dans le spiritisme, la liberté n'est pas absolue dès le départ, elle grandit avec nous. Plus un esprit évolue, plus il devient libre. Pourquoi ? Parce qu'il se libère de ses imperfections, telles l'orgueil, la peur, la jalousie, la colère. Ces chaînes invisibles sont bien plus limitantes que n'importe quelle contrainte extérieure. Un esprit encore dominé par ses passions croit être libre, mais il est en réalité esclave de lui-même. Alors qu'un esprit plus avancé, même dans une situation difficile, reste intérieurement libre. La véritable liberté est donc une liberté intérieure. La Terre est un espace de liberté encadré. Notre planète est un monde d'épreuves et d'apprentissage. Elle nous offre une grande liberté de choix. Nous pouvons aimer ou haïr, construire ou détruire, pardonner ou juger. Mais cette liberté s'exerce dans un cadre précis. Ce cadre sont les lois divines. Non, pas des lois punitives, mais des lois éducatives. Elles nous guident, nous corrigent et nous orientent vers le bien. La Terre est donc un espace de liberté encadré où chaque expérience nous rapproche peu à peu d'une liberté plus grande. Alors, sommes-nous libres? Oui, mais pas totalement. Nous sommes libres en devenir, libres de penser, mais appelés à purifier nos pensées, libres d'agir et responsables de nos actes, libres de vivre, mais invités à comprendre le sens de cette vie. La liberté, selon le spiritisme, n'est pas un droit acquis une fois pour toutes. C'est une construction, une élévation, une transformation intérieure. Et plus nous avançons sur ce chemin, plus une vérité devient évidente. La véritable liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir le bien. Léon Denis nous dit « Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce qui est juste. » Pour conclure, je vous partage une pensée spirite. L'être humain est libre de choisir sa voie, libre de penser, d'agir, et d'orienter sa vie. Mais il n'est jamais libre des conséquences qu'il engendre, car chaque acte, chaque pensée, trace un chemin dont il devra un jour parcourir les effets. Ainsi, la liberté n'est ni absolue, ni sans limite. Elle est juste, éclairée par les lois divines, et nous invite, à chaque instant, à choisir en conscience ce que nous voulons devenir. Maintenant, je vous propose d'écouter une causerie de Régis Verhagen du Césac de Bruxelles sur le thème du pardon.
Il y a une histoire de l'Égypte antique dans le livre des morts qui explique qu'à la mort de chaque personne, de chaque être humain, il y a un moment où les dieux, deux dieux pour être précis, vont peser notre cœur. Donc ils prennent notre cœur, ils le mettent sur une balance. Anubis s'occupe de régler la balance et de placer toutes les choses, et le dieu Thoth note le résultat. D'un côté de la balance, il y a notre cœur. De l'autre, il y a une plume. La plume d'un autre dieu, mais ça, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Et l'idée est de voir qu'est-ce qui est le plus lourd. Notre cœur ou la plume? Si le cœur est plus léger que la plume, à ce moment-là, on va vers ce qui correspond dans cette religion au paradis. Si le cœur est plus lourd, il y a des difficultés, des souffrances, il parle de seconde mort. Et du coup, la question que je voulais nous poser à chacun aujourd'hui, c'est combien pèse notre cœur? Est-ce qu'il est lourd, notre cœur? Est-ce qu'on le sent lourd? Et si notre cœur est lourd, qu'est-ce qu'il alourdit? Alors, je suis désolé de faire probablement remonter des choses pas faciles. Mais parmi tout ce qu'il alourdit chez la plupart des êtres humains, il y a d'un côté la rancune, les blessures, les choses qui sont venues de l'extérieur et qui nous ont marqué, fait mal, qui pèse. Et de l'autre, il y a des regrets. Des choses qui sont plutôt venues de l'intérieur, qu'on a fait ou qu'on a vécu et qu'on regrette et qui nous pèsent. Il y a probablement d'autres choses, mais on va parler de ces deux-là. Des sentiments lourds qui viennent des suites de l'extérieur, et des sentiments lourds que l'on a par rapport à nous-mêmes. On peut en vouloir à quelqu'un, on peut avoir de la rancune. Peut-être qu'on a de la rancune envers nos parents. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur la façon dont ils se sont occupés de nous, dont ils étaient présents ou absents, sur les idées qu'ils nous ont passées, sur les choses qu'ils ont faites, qui nous affectent encore aujourd'hui et qui restent en nous comme un poids. Ça peut aussi être avec des relations amoureuses, des conjoints, conjointes, des ex-conjoints, conjointes, des choses qui se sont passées, peut-être il y a longtemps, peut-être récemment, et qui restent comme un poids dans notre cœur. C'est peut-être des choses dans notre travail, dans notre vie quotidienne, des collègues, des responsables, des subordonnés. Ça peut être dans notre vie amicale, des difficultés qu'on a eues dans nos relations amicales, dans les relations avec nos enfants. Dans certains cas, ça peut même mettre le monde entier. La façon dont le monde est fait, la société, Dieu, une rancune envers ces parties-là. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas ça? Pourquoi est-ce qu'ils voient pas ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas vu? On peut aussi s'en vouloir à soi-même. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi mon corps est comme ça? Et chacune de ces choses pèse. On peut même le sentir presque physiquement. On sent nos épaules qui se baissent, notre tête qui se courbe, notre poitrine qui devient lourde, notre tête qui devient douloureuse, notre sourire qui est et un petit poids qui fait descendre nos joues. Et bien souvent, c'est un poids inconscient. On parcourt la vie avec des sentiments un peu difficiles qui peuvent être de la colère, qui peuvent être de la peur face à certaines choses. On n'ose plus s'investir dans un type de relation parce qu'il y a un poids d'une autre relation. Des fois, on marche triste ou malheureux, sans savoir pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce poids qui est là. Des fois aussi, on a envie de passer à autre chose. On a eu envie de passer à autre chose. On a passé par des difficultés, on a lutté, et on a envie que ce soit fini. Du coup, on se dit, je vais plus y penser. On prend une couverture ou un tapis, on le pose sur la difficulté, et on se dit, maintenant, je continue ma vie. C'est une réaction naturelle, normale. Il n'y a pas grand monde qui veut rester bloqué dans la difficulté. Il y a beaucoup de monde qui en ont marre de ressasser encore les mêmes vieilles histoires, les mêmes problèmes. Mais il y a un danger là. Parce que d'un côté, il y a la chose naturelle, qui est qu'avec le temps, on reçoit la bénédiction de l'oubli. Avec le temps, les blessures guérissent doucement, se cicatrisent. Et ça, il n'y a aucun souci, c'est le truc naturel. Et puis, il y a ce qu'on appelle le refoulement. Ça, les psychologues en parlent pas mal. Il peut être fait consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment, c'est quand notre cerveau, notre âme veut nous protéger. Parce qu'on est dans un grand danger psychologique et que l'âme fait, ok, c'est soit s'effondrer, soit bloquer une partie du cerveau. Donc, il ferme une partie de notre mémoire, de nos souvenirs, pour nous protéger. Souvent, ça va avoir des conséquences plus tard, et peut-être des fois des années, des dizaines d'années, quand l'âme est prête, le souvenir ressort peu à peu. Au début, souvent de manière un peu mystérieuse. Et puis, il y a le refoulement conscient. Quand on se force un peu trop violemment à oublier, à ne pas penser, à ne pas soigner la blessure. Un peu comme quand on s'est blessé, qu'on met un pansement dessus, mais qu'on oublie de mettre du désinfectant ou des trucs comme ça, et que 2 semaines après, on ouvre le truc, on fait... Bref, désolé pour l'image. Comment est-ce qu'on peut alléger ce cœur? La solution de ce cœur lourd, c'est ce qu'on appelle le pardon. Avec les siècles, on a reçu beaucoup d'idées assez fausses sur le pardon. Beaucoup d'idées qui sont finalement des choses assez toxiques. Certains ont pensé que pardonner, c'était une forme d'apathie, de non-résistance face aux erreurs, aux agressions, aux maltraitances des autres. D'autres ont pensé qu'on pouvait pardonner immédiatement, qu'on devait pardonner immédiatement, que si on avait de la colère, c'était qu'on faisait quelque chose de mal. Il y a quelque chose de spécial par rapport aux émotions, c'est que on ne sait pas décider quelle émotion on a. On peut faire des choses qui nous amènent à une certaine émotion, mais on peut pas dire à un moment, j'arrête d'être en colère. Hop, plus de colère, maintenant de la joie. Ça, c'est le truc du tapis. Les émotions, elles sont là. On peut choisir de s'en occuper ou de ne pas s'en occuper. Et en soi, elles n'ont ni élément positif, ni négatif. Ça dépend de ce qu'on en fait. Elles sont des réactions naturelles à ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. On a pensé que le pardon, c'était accepter les agressions, accepter les abus, ne rien faire. On a pensé que c'était oublier. Alors que quand on a quelque chose qui nous blesse vraiment, c'est normal que ça reste dans notre mémoire. On a pensé que le pardon, c'est se dire que tout va bien et fuir la responsabilité de soigner ce qui va mal. Et en fait, toutes ces croyances qui viennent de différents endroits risquent de nous rendre encore plus mal, encore plus malade. Quand on accepte une agression, quand on n'agit pas, quand on ne fait rien, quand on ne se défend pas, surtout si elle est répétée et évitable, en fait, on agresse nous-mêmes quelqu'un. On blesse volontairement une personne. Nous-mêmes. Et c'est très marrant cette façon qu'on a, la relation qu'on a avec nous-mêmes, parce que la plupart d'entre nous, on peut être plus méchant et plus cruel qu'on le serait avec n'importe qui. Un exemple que je donne souvent, c'est imaginer, je renverse un verre d'eau. On le fait tous. Et on dit, ah, mais quel idiot, quel imbécile. T'es vraiment pas capable même de tenir un verre d'eau. Quand on fait des erreurs, on a souvent ce vocabulaire. Imaginons maintenant si on fait ça à quelqu'un d'autre. Notre meilleur ami ou notre meilleure amie renverse un verre d'eau. Et on dit, ah, mais quel imbécile. T'es vraiment pas capable de tenir un verre d'eau. Ça sonne beaucoup moins naturel, hein? Ça sonne beaucoup plus cruel et méchant. Et pourtant, on fait ça souvent envers nos mains. Mais quel idiot, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas dit ça? Pourquoi t'as pas réagi comme ça? Quand on se laisse faire, ça veut pas dire on doit taper sur l'autre, mais quand on subit une agression, qu'on se laisse faire, qu'on y retourne, on blesse quelqu'un. Imaginons que c'était quelqu'un d'autre. Imaginons que c'est un proche et quand il va à un endroit, il se fait agresser, on lui dit, vas-y, retourne. C'est une bonne idée. Ça sonne tout de suite plus cruel, beaucoup plus violent. On a développé une mauvaise compréhension de différents concepts. Le pardon, la tolérance. On a mal compris le message de Jésus et ce faisant, on est devenu, avec la meilleure volonté du monde, dans certains cas violents envers nous-mêmes. Chez les gens qui sont victimes de violences, le sentiment de culpabilité est très, très, très souvent présent. Les gens qui accompagnent et qui soignent et qui soutiennent des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, ils ont des techniques spécifiques pour ça. Généralement, quand une personne va arriver, elle va raconter une violence sexuelle qu'elle va subir, elle va dire, ah, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas dit ça, si j'avais pas porté tel vêtement, si j'avais pas bu autant, si j'avais pas, si j'avais pas. Et c'est étonnant parce que les psychologues qui les accompagnent, d'habitude, un psychologue, il est plus passif, il va pas mettre de jugement, il va dire, c'est pas vrai. Si vous étiez face à quelqu'un de normal, peu importe ce que vous portiez, peu importe ce que vous aviez bu, peu importe ce que vous auriez dit avant, Une personne normale n'aurait jamais fait ça. La seule personne qui n'aurait pas dû faire quelque chose, c'est l'agresseur. Et donc souvent, quand on vit des choses pas faciles, on a tendance à s'en vouloir à soi. D'ailleurs, il faut savoir que quand on a des ruminations mentales, vous savez, quand on vit un truc pas cool et que ça tourne la nuit au lieu de nous laisser dormir, que ça tourne quand on essaye de se détendre et qu'on refait la même scène et qu'on dit autre chose et qu'on gère mieux ou qu'on revoit la personne et que on arrive à bien gérer la situation, à avoir le bon, la bonne remarque, la bonne chose. Très très souvent, ça veut dire que on n'est pas du tout OK. On en veut à la personne qui a réagi comme ça. On s'en veut à soi. Putain, pourquoi t'as pas dit ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Ah! On a une colère envers nos mâmes qu'on essaye de soigner. Et comme on ne le saigne pas, notre esprit fait tout le temps. Il essaye de nous le rappeler. Et nous, à chaque fois, on essaye de faire. Tu vois, t'es nul. Et on enfonce et on alourdit notre cœur. La rumination mentale veut souvent dire qu'on a quelque chose à se pardonner, à se soigner, à se défendre. Et on peut se défendre de manière chrétienne. Gandhi a montré que c'était tout à fait possible de se défendre, de se battre de manière totalement respectueuse, bienveillante et non violente. Il a réussi à se battre contre l'Empire, contre l'armée la plus puissante du monde, et à gagner sans violence, de manière extrêmement chrétienne. Pardonner, c'est un long travail. C'est un travail qui prend du temps, avec des moments ça va un peu mieux, des moments ça va un peu moins, ça va un peu mieux, ça va un peu moins, avec des tentatives qui des fois fonctionnent, d'autres pas, on essaie d'être bien, puis on voit qu'on n'a pas pris le bon chemin. Dans beaucoup de cas, il faut de la distance pour pouvoir pardonner. Il faut du temps, il faut de l'aide psychologique. Il faut parfois parler, c'est la technique qu'utilisent les psychologues, ils nous font parler, écrire. Quand c'est possible, des fois, il faut aller discuter avec la personne avec qui on a eu une difficulté, même quand c'est... Ça ne va pas forcément changer les choses, ça ne va pas forcément réparer le passé. On a toute une série de choses à accepter sur ce qu'on a fait, comment on a géré, sur ce qu'on ne peut pas faire. Accepter de ne pas vouloir l'impossible, de ne pas vouloir la perfection. Beaucoup des gens qui se détestent, c'est parce qu'à un moment dans leur éducation, souvent avec les parents, on leur a demandé la perfection. Et quelles que soient les choses qu'ils faisaient, on leur disait toujours « Non, mais tu peux faire mieux. » Mais c'est pas... Ils se disaient « Quoi que je fasse, c'est pas assez. » Et même s'ils ont besoin de pardonner à leurs parents, parfois c'est déjà fait, ils ont surtout besoin de se pardonner à eux-mêmes pour se dire « J'ai pas la perfection. » Et de nouveau, on peut toujours prendre l'image de dire « Ok, si c'était mon meilleur ami qui avait pas la perfection, est-ce que je lui dirais « T'es nul, tu peux faire mieux. » Ou est-ce que je lui parlerai autrement? Quand c'est possible, on peut essayer de se réconcilier, de recommencer. Et parfois, c'est avec nous-mêmes qu'on doit se réconcilier, qu'on doit recommencer, qu'on doit redevenir doucement, différemment, sur le terrain de ce qu'il y a eu. Dans certains cas, avec d'autres personnes, avec d'autres choses. Bref, c'est juste un petit résumé de tout ce que peut être le pardon, mais il faut se rappeler que c'est un long chemin. Et c'est plein de choses différentes, et c'est un travail compliqué qui prend du temps. Le paradis de toutes les religions, y compris celle de l'Égypte antique, dont je vous ai parlé au début, c'est une métaphore. C'est la métaphore d'un bien-être profond. D'un bien-être gigantesque. Et comme dans l'histoire, c'est la métaphore d'un cœur vraiment léger. Alors on a tous le cœur un peu lourd. On a tous, à notre niveau, des poids ici. Et maintenant, on sait ce qu'il faut faire, le chemin qu'il ne faut pas courir, qui va prendre du temps et du travail pour pardonner aux autres et pour nous pardonner à nous-mêmes.
Nous poursuivons avec la rubrique « Témoignages et échanges ». Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nikos, qui répond à la question « Comment es-tu devenu spirit ?»
Heureux de t'accueillir ici sur Radio Kardec et Regard Spirit, puisque cet enregistrement va être en audio sur Radio Kardec et en vidéo sur Regard Spirit. On se connaît, nous faisons partie des mêmes groupes spirit, on se suit déjà depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, tu as accepté de venir répondre à ces questions et je vais te laisser te présenter et répondre à la première question qui est « Peux-tu nous raconter comment tu as découvert le spiritisme et ce qui t'a attiré vers cette philosophie ?» C'est à toi.
Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Nikos Katsoulis. C'est un nom qui vient de Grèce, donc je suis crétois. Donc, j'ai été éduqué en langue française. J'ai fait une trentaine d'années en Belgique, donc... J'ai été éduqué par j'ai une éducation catholique. Malgré que je ne suis pas religieux, j'ai plus de 70 ans et grand-père aussi. Et je suis dans le spiritisme il y a pas mal d'années. Donc, comment cela a commencé avec moi, donc? Ce n'est pas une question de hasard parce que depuis mon plus jeune âge, je me posais des questions sur le pourquoi de notre existence. Donc, on me disait toujours à quoi, donc, même dans mon, quand j'avais 15, 16, 17 ans, on me disait, mais t'es toujours dans les nuages. Et la raison pour laquelle on est venu sur Terre me tracassait. Je voulais savoir le pourquoi. Souvent, je regardais vers les cieux, donc, hein, et aussi bizarre que ça peut paraître, je me disais, mais je suis pas d'ici. Il y a quelque chose qui me dit que je suis pas d'ici. Ça, c'était là, une des premières choses. Et puis, j'ai commencé à lire. Il faut dire que la lecture est chez nous, disons, dans ma famille, donc, c'est une ancienne tradition, mon père lisait beaucoup, donc, et moi aussi, depuis mon plus jeune âge, je lisais. Je ne lisais pas de la littérature, c'était beaucoup des livres philosophiques sur les philosophes, hein, livres sur les religions aussi. Parce que je cherchais toujours le pourquoi. Et je m'étais aperçu donc que les philosophes ne me donnaient pas de réponse. Chacun avait sa, disons, son point de vue. Et que la religion, ou la religion catholique que j'ai fréquentée, que j'ai grandi avec, la doctrine était sublime, donc c'était, mais je voyais que les représentants de cette doctrine ne la mettaient pas en pratique. Et malheureusement, ces représentants formaient une barrière à franchir, donc, pour mieux comprendre le sens de la vie. Les années passent, toujours en train de chercher le pourquoi, je ne trouve pas de réponse. À un moment donné, je quitte ces recherches, je deviens même un peu, disons, athée, hein, si je peux, parce que voyant que cette injustice qui se passe sur cette terre, l'effort qui opprime les moins forts, donc les faibles. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait une explication. J'étais sûr qu'il devait y avoir une raison à tout cela. Donc, devenu athée, entre guillemets, je mets athée, donc, les années passent, les années, mais c'était toujours à l'intérieur, donc, de moi, donc, je voulais savoir pourquoi, donc, et je voulais savoir, je voulais comprendre pourquoi il y avait tant d'injustices. Jusqu'au jour où, un beau jour, je suis en train de surfer sur Netflix et je vois un film qui s'appelle Kardec. Un nom que j'avais jamais entendu. Et je pousse sur le bouton, non? Et le film commence, hein? Et je vois qu'au début du film, ce personnage se posait les mêmes questions que moi je me posais. Je trouve ça bizarre, hein? Qu'est-ce que c'est comme histoire? Puis je m'arrête, je dis, je vais sur mon ordinateur. Spiritisme, alors il fallait pas me parler de médium, il fallait pas me demander, non, ça c'était pour moi, disons quelque chose que, non, c'était fait pour les foires, oui. Mm. C'était rien de sérieux, quoi. Et puis, je commence à lire l'histoire de ce personnage et ça m'intrigue. Je continue le film et puis on commence à parler du livre. Donc le livre des esprits. Hein. Je m'arrête encore. Hein. Vous savez, moi personnellement, pour voir un film, ça peut durer 2-3 jours. Hein, donc, hein. C'est comme ça. Donc, on parle du livre des esprits. Hein, donc, de nouveau sur mon ordinateur. Et puis je m'aperçois donc que c'est plus de 1000 questions posées aux esprits. Supérieur. Je n'ai pas terminé le film. J'ai tout de suite commandé le livre. Donc, et puis ça a été le début pour moi du spiritisme. Donc, je suis. J'ai eu les réponses que je cherchais. Ça m'a, rassasié, premièrement. Hein, et ça. Une paix intérieure est rentrée en moi. Donc, je veux même dire, pas simplement une paix, un bonheur. Donc, j'ai compris que tout ce que je ne pouvais pas comprendre, cette injustice, tout cela, était une justice divine. Donc, bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, j'ai commencé à lire tout ce livre, Léon Denis. Je peux en vous citer des dizaines d'auteurs que j'ai lus, donc ça a rempli, j'étais vraiment assoiffé, hein, assoiffé de connaître, je voulais boire de cette eau de vie, hein, parce que c'est une eau de vie, le spiritisme, donc. Et maintenant, je vis en paix, j'ai une paix intérieure, tous les jours, je parviens mieux à me contrôler tous les jours, donc je fais une amélioration interne, donc que j'essaye de faire tous les jours de mieux en mieux. J'avais en moi-même j'étais quelqu'un déjà depuis mon plus jeune âge qui aidait les autres, donc c'était pas quelque chose pour moi de nouveau d'aider quelqu'un, quelle que soit la couleur, la religion, etc. Donc même de mon plus jeune âge, j'ai aidé les gens de toutes les catégories. Et maintenant, donc, ça continue. Donc, mais j'ai une paix intérieure. Donc.
Voilà, je pense que c'est dans ton parcours, c'est un peu aussi mon cas. Quand on a la réponse à notre question de qu'est-ce qu'on est venu faire ici, il n'y a pas de hasard. C'est pas par hasard qu'on est arrivé. Moi, c'était un peu mon questionnement jeune aussi. Je savais très bien que je ne venais pas ici sur cette terre pour naître et mourir. Il y avait bien autre chose et bien au-delà. Et quand tu as ces réponses, évidemment, comment veux-tu ne pas retrouver une paix intérieure en te disant, mais en fait, il n'y a pas que moi qui me pose ce genre de questions. Il y en a d'autres. Et en plus, d'autres amènent des réponses. Et c'est ça, en ça que c'est un peu notre philosophie. Elle est sur un travail sur nous-mêmes, mais elle nous apporte une paix intérieure incroyable.
Incroyable, alors, oui.
Si je passe à la deuxième question, alors quel a été le moment ou l'expérience qui a marqué le plus ton cheminement?
Donc d'abord, je dois dire, concernant, on n'est pas tous, on n'a pas tous la même évolution. Il y a des gens qui ne se posent pas ces questions. Le pourquoi de la vie. C'est leur choix et le temps viendra pour eux.
Bien sûr.
Donc, qu'est-ce qui m'a... Moi, ça a été... Donc, j'ai été vraiment absorbé par cela. Hein, donc, c'était ce que je recherchais depuis des années et des années. Donc, ce qui m'a beaucoup, disons, imprégné dans cette philosophie, c'est que j'ai corrigé mes erreurs. Beaucoup de gens que j'avais blessés, parce que maintenant je suis peut-être sage, mais j'ai pas toujours été sage, comme tout le monde, quoi. Donc, beaucoup de gens que j'ai blessés, pas, disons, physiquement, peut-être oralement, donc, je leur ai demandé pardon. S'ils étaient désincarnés, j'ai prié pour eux, donc, je leur ai demandé pardon. Un pardon sincère. C'est pas simplement avec les lèvres, hein, c'est un pardon sincère. Et aussi, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. De la même façon, donc, sincèrement, je vous pardonne, on est tous frères, donc. Et tous ces petits détails, hein, mes amis, donc, ça vous remplit d'une béatitude. Vous êtes, disons, vous êtes, vous vivez dans l'allégresse. Enfin, moi, c'est moi personnellement, hein, donc, on vit dans l'allégresse. On a mis des choses en place qu'il fallait mettre en place, demander pardon, hein, et donc demander pardon et pardonner aussi, hein. Donc, et ça, je le fais tous les jours, enfin, j'essaye, hein, donc de le faire ou de le pratiquer tous les jours, donc.
Je rebondis sur la question, mais en même temps, tu viens d'y répondre. Y a-t-il non, quel conseil de, non, c'est pas celle-là, cette question. C'est par rapport à l'enseignement spirituel qui t'accompagne tous les jours et que tu aimerais partager, c'est le pardon. Cet enseignement, pour toi, il est vraiment mis en avant, mais dans notre philosophie, évidemment, la paix intérieure ne passe pas sans le pardon pour soi-même, mais aussi pour les autres.
Le pardon, hein, et puis aussi, hein, il faut pas juger les gens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont derrière eux.
Mais bien sûr.
Donc ça, c'est le spiritisme, nous l'apprend. Ne jugez pas donc pour ne pas être jugé vous-même. Hein, donc ce sont des conseils, hein, mais qui vous donnent une paix, hein, une paix intérieure.
C'est ça.
Et donc ne pas juger donc. Hein, et puis faire le bien, donc c'est pas simplement le bien matériel, hein, Myriam, hein, donc une parole, une caresse, un sourire. Hein. Moi, je vous donne une façon de, c'est ma façon. Hein, donc, je suis en vélo parce que je fais souvent du vélo. Je vois des émigrés qui sont sur là, qui marchent. Hein. Perdu dans un pays donc où il y a pas mal de racisme, hein. Il faut pas croire que la Grèce est un pays où tout est rose. Eh bien, chaque fois que je vois ces gens, je fais une prière ou bien je dis Seigneur, aidez ces gens loin de leur famille, loin de leur épouse, loin de leur... Donc c'est comme ça tous les jours. Chaque fois que je vois quelqu'un ou même un animal ou un arbre, toujours un remerciement. Et ça, ce sont des...
Voilà, c'est ça,
On
c'est pas
reçoit des vibrations, ouais.
voilà, c'est ça. Et
On
tu vis en
ressent.
harmonie avec ce qui t'entoure. C'est ça aussi
Oui,
le
oui.
plus important. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui écoute l'émission et qui hésite encore à franchir le pas?
Ça dépend de pour quelle raison il voudra, disons, franchir le pas, hein. Donc, s'il veut trouver la paix intérieure en lui, donc je lui conseille le spiritisme. Il va pas trouver cela, peut-être qu'il le trouvera dans les religions, peut-être, hein, mais le spiritisme, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il met c'est qu'il fait travailler son raisonnement. Il n'y a pas de doctrine, on n'a pas de bougie, on n'a pas de messe, on n'a pas de... Non, il fait travailler ton raisonnement. Ne fais pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on te fait, qu'on te fasse.
Oui.
C'est archi simple. Hein?
Voilà.
Et puis, c'est universel. Hein? Donc, ne fais pas... Aimez-vous les uns les autres. Et moi j'ai... C'est une phrase tellement simple, tellement courte et tellement profonde qu'elle peut, elle embrasse tout l'univers. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, aimez vos ennemis.
Alors là, on aborde une autre partie un peu plus délicate. Mais pour arriver à ça, il y a tout un cheminement de vie.
Il y a un cheminement, voilà. Oui.
Il faut comprendre.
On va nous passer pour des débiles, quoi.
Hein, non, c'est que dans le cheminement de notre, c'est notre réforme intime. Quand on en passe, comme tu viens de dire, par l'amour, par le pardon, obligatoirement, on va aller vers aimer votre ennemi. Mais on n'y est pas encore. Il nous faut encore beaucoup de temps parce que c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais laissons la porte ouverte, ne la fermons pas, et au moins on sait que on est sur cette voie. Et ça déjà, c'est un bon départ. En tout cas, Nikos, on arrive à la fin de notre rencontre. Je te remercie beaucoup de ton invitation, ton parcours est très intéressant, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Et je vais te dire au revoir et je vais te laisser le mot de la fin.
Donc le mot de la fin... c'est qu'il n'y a pas de fin. Donc, vous qui n'êtes pas spirite, nous, on apprend que la vie est éternelle. Voilà, ça c'est le monde de la fin, qui n'a pas de fin.
Eh bien, je te remercie beaucoup, Nikos, et je te dis à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir et merci. Au revoir.
Merci à toi.
Rubrique Info des centres spirites. Le NECAFLA de Bruxelles vous propose des nouveaux cours en ligne. Pour les inscriptions, envoyez un mail à info@necafla.be. Le coordinateur du cours prendra contact avec vous. Le mouvement spirite francophone vous propose des cours dans une nouvelle session. Inscriptions et renseignements sur info@lmsf.org. L'Asso Kardec vous propose le livre du mois. Histoire familiale de Léon Denis, de Lucette D'Amico. Ce livre est un plaisant voyage entre réalité et découverte qui demande de réflexion. Une petite paysanne de Lorraine, cela vous parle? Eh bien non, ce n'est pas là l'histoire de Jeanne d'Arc, mais celle d'Anne-Lucie Liouville Denis, dite Pauline, qui, elle, ne sera pas connue. La simplicité de sa vie, l'histoire et les mœurs revisitées de ses ascendants dans la Lorraine de 1800, son mariage avec Joseph Denis, la traversée de la France au gré des mutations dans ce pays qui entre dans une ère nouvelle, formeront son destin qui va la rattraper par la naissance d'un fils unique, Léon Denis, qui lui aura sa part de notoriété. Vous pouvez trouver chez l'Asso Kardec les 5 livres de base du spiritisme. Le livre des esprits, l'évangile selon le spiritisme, le livre des médiums, la genèse et le ciel et l'enfer. La revue Spirit est une revue qui a été fondée par Allan Kardec en 1858. C'est un journal d'études psychologiques. Le numéro du premier trimestre 2026 a été expédié aux abonnés. Le dossier de ce numéro commémore le centenaire de la désincarnation de Gabriel Delanne, qui a beaucoup contribué à l'approche scientifique du spiritisme. Nous y avons reproduit plusieurs de ses discours et de ses articles, montrant son caractère attachant et constructif, ainsi que la profondeur de son œuvre. Ce numéro contient aussi d'autres articles sur la philosophie spirite, encourageant la paix dans le monde et le changement vers un paradigme spirite belge avec un article très détaillé sur la pratique médiumnique dans les groupes spirites et une poésie Allô à la vie. La rubrique Notre pain, analysant le chapitre 21, Eau profonde. Les mots croisés de notre sœur Myriam, un hommage à Janet Duncan, pionnière spirite du Royaume-Uni qui a rejoint le monde spirituel en janvier 2026. Enfin, la rubrique avec les dernières informations sur le mouvement spirite. Ce numéro contient également le bulletin d'inscription pour le 26e symposium de la francophonie. Pour nous aider et soutenir nos efforts, abonnez-vous à la revue sur www.assocardec.fr. Dans le cadre de la Journée mondiale du spiritisme, nous avons le plaisir de vous convier le samedi 18 avril 2026 à 20h à une causerie avec le LMSF, la PESAC et le CESLD pour les 169 ans du Livre des Esprits, animé par Charles Kampf, Jean-Pierre Pépineau, Bernard Meunier et Dominique Peset, sur YouTube, sur la chaîne Regard Spirit. Vous avez la possibilité d'assister en présentiel aux deux chemins du Pinche, 47520, le passage d'Agen. Pour plus d'infos, apesac@laposte.net ou au 06 21 42 58 60. À noter dans vos agendas, le 26e symposium spirite pour la francophonie ouvre ses portes du samedi 23 mai à 9h jusqu'au 24 mai 2026 à 15h. Le thème proposé cette année est le spiritisme à l'épreuve de la science. Ce thème s'inscrit dans la continuité des précédents. Après les nombreuses réflexions qui nous ont permis de converger vers des bases communes, mais aussi de contacter les diverses difficultés qui entravent l'évolution et le maintien dans la contemporanéité du spiritisme, il est temps de consolider les ponts entre spiritisme et science. Nous aurons ainsi l'occasion d'évoquer les scientifiques du passé qui ont permis au spiritisme de marcher avec le progrès de son époque. En parallèle, nous explorerons les recherches actuelles en conservant cette question essentielle à l'esprit. Où nous situons-nous par rapport à ces études et constats? Il ne s'agira ici que d'une première étape devant permettre à tout un chacun d'entamer une réflexion entre connaissances du passé et connaissances nouvelles. Comme à l'habitude, une large partie du temps sera consacrée aux moments conviviaux afin que celles et ceux qui ne se rencontrent que trop rarement puissent partager leurs valeurs et aspirations. Les enfants ne seront bien sûr pas oubliés. Des activités ludiques seront organisées pour eux à partir de l'âge de 5 ans. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Les soirées seront égayées par différentes activités et des moments libres, afin d'ouvrir un espace pour mieux se connaître, la cafétéria étant à disposition de toutes et tous. Cela se passe comme chaque année, depuis 26 ans, au château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne. C'est à 20 km de Liège. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mai 2026 sur le site spirit.be. Ici se termine notre émission. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur info@lmsf.org. Je vous propose d'exercer votre liberté dans l'amour et la bienveillance. Continuez d'être curieux et osez. À bientôt.